11h sur Radio Campus Tour. Bienvenue si vous nous rejoignez, chers auditeurs, vous écoutez La Méridienne. Et alors, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir deux invités que nous avons déjà reçus en septembre 2019, en février 2017 et en avril 2015. Alors peut-être que vous ne devinez pas de qui il s'agit, donc je ne vais pas maintenir plus longtemps le suspense. Il s'agit de Adrien Fournier, bonjour.
Bonjour.
Et Alexandre Fink, est-ce que je prononce bien votre nom ?
Oui.
Voilà, donc vous représentez ici la compagnie Discrète. Vous êtes tous les deux artistes associés, comédiens et metteurs en scène. Merci à vous d'être revenus donc sur notre plateau radio. Et je salue également Damien. Bonjour Damien.
Bonjour.
Alors Damien, tu es ici en stage. Merci à toi d'être là également pour participer à cette émission. Alors évidemment... Je suis désolée de passer par ces questions peut-être un peu bateau, mais il semble nécessaire tout de même de parler de la compagnie Discrète. Alors si on se penche sur votre biographie, il semble quand même que vous êtes rencontré au conservatoire à rayonnement régional de Tours, que vous avez suivi les enseignements de Philippe Lebas et de Christine Joly. Voilà, alors est-ce que c'est à ce moment-là que vous êtes rencontrés ? Et est-ce que, voilà, racontez-nous comment ça s'est passé.
Oui, c'est exactement ça. Bah oui, on était au conservatoire de Tours, Adrien et moi, on s'est rencontrés là-bas dans ces cours-là, mais il y avait un autre cours, c'était les cours de Didier Giraudon. C'était des cours de clown qu'on avait toutes les semaines. Et du coup, c'est surtout dans ces cours-là qu'on a commencé à expérimenter notre duo de mime, mime clown. Et du coup, on a pu s'entraîner et essayer des choses, et c'est là vraiment que ça s'est construit.
Alors peut-être pour nos auditeurs qui ne sont pas très familiers des arts de la scène, est-ce que vous voulez expliquer c'est quoi un cours de clown en fait ? Comment on devient clown ? Parce que voilà, c'est peut-être des personnes se disent c'est inné, il y a des gens qui ont un talent pour être clown et d'autres non, et comment ça marche ?
Ben, en fait, il y a différentes approches aussi du travail de clown, parce qu'il y a différents courants, il y a différents artistes qui se réapproprient ces codes-là, et puis après ça évolue avec le temps. Et nous en fait, on avait une approche particulière qui nous a été transmise par Didier à l'époque. Donc il y avait des codes de jeu, donc par exemple quand il y en a un qui prend la parole, tous les autres le regardent, portent son attention, et donc du coup en fait l'attention du public doit être vraiment portée sur ce clown-là. Donc il y a tout un travail de regard où on sent qu'il prend le focus, on va dire ça comme ça. Voilà, il y a des codes de comment on se déplace dans l'espace, tout ça. Donc ces choses-là, en fait, c'est des choses qu'on avait apprises sur plusieurs années, régulièrement. Donc ça nous a donné une certaine rigueur aussi de jeu. Et c'est dans ces cours-là qu'on a nous expérimenté le mime. Et donc du coup, on s'est un peu réapproprié ces codes pour aussi les briser, c'est un grand mot, mais pour ouais, se les réapproprier pour jouer avec, pour créer notre langage à nous, Alex et à moi, où voilà, on a voulu... raconter des histoires de deux clowns en fait. Nous, la première chose qu'on a présentée, c'était deux gars dans la jungle en fait, deux clowns dans la jungle qui avaient une mission mais ils n'y arrivaient pas. Et le clown, c'est un peu de ça, c'est aussi ce qui est intéressant chez le clown, c'est la lose, c'est quand ça se passe pas bien, c'est de montrer qu'il a un objectif mais il a du mal à y venir. Et c'est plus intéressant justement de montrer ce chemin là, comment toutes les étapes qu'il doit passer, par lesquelles il doit passer pour arriver à son but. Et c'est plus intéressant que le but en lui-même. Et donc du coup, c'est un peu cette base-là qui nous a servi de base pour écrire notre petit sketch à l'époque de 20 minutes. C'était 20 minutes, ouais. Voilà.
Du coup, c'est quoi la différence entre mime et clown ?
La grosse différence, c'est que clown... déjà, comme disait Adrien, clown, il y a beaucoup de façons de faire du clown. Il y a des clowns qui n'ont pas de nez rouge, par exemple. Il y a plein de familles différentes. Clown, c'est... comment dire, c'est un personnage un petit peu décalé du monde, qui voit le monde un peu différent, qui peut être un peu bête, qui peut être un peu absurde, voilà, qui est souvent burlesque, mais il peut parler, il peut... voilà, le mime, traditionnellement, c'est silencieux, il n'y a pas un seul mot. L'image qu'on a, c'est le mime Marceau, avec le maquillage blanc, les rayures, la petite fleur. Et il faut tout évoquer avec le corps. Nous, on fait un mélange des deux, c'est-à-dire qu'on fait du mime, mais on fait des bruitages, on casse un peu les codes du mime traditionnel. Mais ça reste du mime parce qu'on raconte avec le corps. Vraiment. C'est-à-dire qu'on mime des choses qui n'existent pas avec nos mains, avec notre corps. Et on va évoquer, je sais pas, la rivière avec notre corps, plutôt que dire il y a une rivière, comme au théâtre. Donc je sais pas si ça répond vraiment, mais elle est un peu là la différence. C'est que le mime, vraiment, c'est avec le corps qu'on va raconter les choses.
Est-ce que le mime, vous arrivez à l'expliquer à des personnes qui ne le connaissent pas du tout?
Oui, parce qu'on a l'habitude de croiser on va dire des personnes qui n'en ont jamais fait. Ça nous arrive de faire des ateliers pour différents types de publics, que ce soit des adultes comme des jeunes, des ados, des étudiants, des enfants. Bon, c'est assez large, c'est un code universel, enfin c'est un langage universel, donc du coup c'est tout le monde peut se réapproprier là. C'est assez accessible. Et donc du coup c'est vrai qu'on on fait face aussi à des avis très tranchés sur le mime. Les gens qui connaissent le mime un peu disent ce qu'on fait nous c'est pas du mime. Ils considèrent que c'est pas du mime, c'est du théâtre gestuel parce que c'est pas purement silencieux. Et après là c'est vraiment propre à moi. Moi quand j'en parle à des gens à qui on fait des initiations de mime, j'aime faire la différence entre le mime et le théâtre gestuel en disant que le mime on vit vraiment l'action. On est vraiment dans une réalité, c'est hyper important pour la personne qui le vit. Le théâtre gestuel va donner l'information qu'on vit une action. Le théâtre gestuel, par exemple, on va donner l'information qu'on crayonne sur un carnet, donc du coup, ça peut être très vite expédié, alors que le mime, il faut qu'on arrive à sentir le carnet, le crayon, toutes ces choses-là, toutes ces données qui permettent de vraiment vivre l'action. C'est un peu la différence, c'est très subtil. C'est une approche très personnelle. Voilà.
Moi, je m'interroge aussi sur l'exigence physique pour être mime, parce que bon, la danse, c'est un sport, n'en déplaise à certains. Et donc, qu'en est-il du mime? Parce qu'on imagine la précision des gestes pour montrer un mouvement, même vous disiez la rivière, ou j'imagine le vent, ou des choses comme ça. Donc, il y a quand même une maîtrise de son propre corps. Est-ce que vous voulez dire quelque chose là-dessus?
Oui, totalement. C'est bien de faire la comparaison avec la danse parce que ça se rapproche beaucoup de ça sur plein d'aspects. C'est très proche de la chorégraphie parce que c'est très très précis, les gestes qu'on doit faire pour que tout le monde comprenne puisqu'il n'y a pas de parole. Si on veut expliquer quelque chose juste avec notre corps, il faut qu'on soit très 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 clair, très 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 précis. Il ne faut pas qu'il y ait des choses brouillon ou brouillonne, je ne sais pas si ça se dit. en tout cas, pour que ce soit clair et que tout le monde voit la même chose et soit dans la même histoire, il faut qu'on soit très coordonné, très très précis, donc ça prend du temps. Physiquement, c'est assez difficile des fois, c'est... oui, il faut qu'on s'étire, sinon on a des courbatures, on se fait mal, il faut qu'on ait un rythme, une endurance. C'est très proche de la danse par rapport à ça.
Et même sur le souffle, peut-être, la respiration...
Ouais. Oui, c'est ça.
Ouais, c'est... On le voit, les premières représentations de certains spectacles, on peut... Même malgré les semaines de travail pour la création, on sent sur les premières représentations qu'on a... Il y a des moments où on sent que le souffle, on essaie de le gérer d'une manière, mais il y a un des spectacles où vraiment c'est très, très, ça dure 45 minutes, mais c'est très intense. Et donc du coup, oui, c'est très dynamique. Et à la fin, on finissait, on était KO. Là encore, ça arrive encore, mais un peu moins parce qu'on a appris on le connaît par cœur, ce spectacle-là. Enfin, les spectacles, on les connaît, ils sont dans notre corps. C'est vraiment, c'est intégré. Donc, du coup, on sait où placer les souffles, on sait comment gérer certaines situations, certaines scènes qui sont plus intenses. Donc, on va réussir à rééquilibrer notre souffle pour mieux gérer la fatigue. Et on sent la différence au fil des tournées. Ouais.
Il y a aussi l'expérience aussi qu'on commence à avoir, la maîtrise de ce langage-là, de cette discipline-là, qu'on commence à avoir vraiment. En nous, on commence vraiment à se spécialiser là-dedans depuis des années, donc ça nous demande moins d'efforts de faire la même chose qu'il y a 10 ans. Comme justement une danseuse ou une gymnaste qui peut faire un grand écart comme ça lui fait rien, sans échauffement, au bout de 20 ans, alors qu'au début, c'est plus difficile, quoi. C'est un peu la même chose.
Et du coup, je me demandais si, puisqu'on parlait de la danse, est-ce qu'il y a vous pensez qu'il y a une mémoire physique du mime, de dire par exemple qu'il y a des spectacles que vous avez joués pendant des années, peut-être qu'ils sont en pause et pendant quelques années pour une raison ou une autre. Donc c'est-à-dire que si vous revenez à ce spectacle, vous avez la mémoire physique des gestes? Comment ça
oui.
se passe?
Oui. Alors pas à 100%, mais c'est très puissant la mémoire corporelle. C'est bien plus puissant que la mémoire du texte. D'ailleurs, parce qu'on n'est pas que mime, on est comédien aussi dans d'autres compagnies. fais du théâtre un peu plus normal, entre guillemets. Et moi, ce que je fais quand j'apprends mes textes, je bouge, je marche. On l'associe à des mouvements, à des déplacements. Et le texte va revenir beaucoup plus rapidement. C'est très puissant, la mémoire corporelle, pardon.
Je suis d'accord. Il y a un spectacle qu'on avait créé il y a 10 ans. Maintenant, il n'est plus en tournée parce qu'il faut faire tourner un peu les autres, quoi. Et il faut les faire vivre et puis il faut savoir tourner la page. Mais je suis sûr que si on devait se remettre une semaine pour le reprendre en main, ce petit spectacle, ça s'appelait à l'époque Le son du silence. Et on prendrait beaucoup de plaisir à le retrouver parce que oui, là, il n'y a pas la même recherche. C'est pas la même difficulté de rechercher un texte que le mouvement corporel, parce que je sais pas, c'est vraiment en nous, quoi. C'est vraiment le travail du corps. Le langage corporel, c'est plus puissant que le langage verbal, donc c'est vraiment instinctif.
On l'a d'ailleurs fait cette année, on a repris le spectacle Horizon qu'on avait fait en 2019. La dernière fois qu'on l'avait joué, c'était en décembre 2020, je crois, et on l'a rejoué là en janvier-février 2022 à la Carrosserie Meynier, et on l'avait pas revu depuis 2020, et on l'a pris quelques jours seulement, et ça s'est très bien passé.
Décembre 2019.
Pardon. Décembre 2019.
Ouais, ça faisait deux ans. Encore, deux ans qu'on l'avait pas joué.
Mais alors, est-ce que ça veut dire aussi que ces spectacles, ils sont jouables que par vous deux? Ou alors, est-ce que ce serait peut-être impossible de jouer vos spectacles avec quelqu'un d'autre? Avec que votre binôme soit différent, en fait, faire un binôme avec d'autres comédiens ou mimes. Tellement, peut-être, vous avez appris dans votre corps les gestes, et parce que j'imagine, je ne sais pas si c'est coécrit, mais en fait, ça veut dire que vous jouez aussi avec l'énergie de l'autre, avec sa façon de bouger, d'être.
C'est ça. En fait, c'est coécrit. En fait, ça repose quand même sur les histoires qu'on écrit reposent quand même sur la base, c'est le duo. C'est le duo qu'on a entre Alex et moi. Et puis, on est autodidacte. On s'est formé ici et là à côté. Et puis, avec nos expériences, voilà, on a créé notre langage. Et puis, on se connaît aussi au plateau. Donc, du coup, on sait que quand on va faire telle situation, on a même si on voit pas son partenaire de jeu en train de jouer, on sent qu'on on sait qu'il va pouvoir répondre de telle manière. Si par exemple, moi, je prends le focus, ce dont je parlais tout à l'heure, et que je me mets en évidence, je prends l'avant de la scène, je prends le devant. Je sais qu'Alex, par exemple, à tel moment, va se mettre un peu plus en retrait. Et voilà, on sait qu'il y a un travail d'écoute, et ça repose beaucoup sur l'écoute. Et c'est, entre nous, c'est assez limpide depuis le temps. Et donc, du coup, ouais, les spectacles sont coécrits et reposent aussi sur l'humour qu'on a créé ensemble. On se connaît aussi beaucoup, on sait comment on peut réagir l'un face aux blagues de l'autre. Et c'est vrai que c'est super comme façon de travailler, mais après, le désavantage, c'est que bien sûr, on peut pas transmettre le rôle à quelqu'un d'autre. Enfin, ça pourrait être possible, mais ça serait vraiment plus compliqué, quoi. La personne devrait aussi, qui devrait nous remplacer l'un ou l'autre, devrait vraiment se caler et puis sur les mouvements de base, et puis après ça changerait l'histoire aussi, il y aurait quelque chose qui devrait changer. On ne pourrait pas lui imposer ça.
Est-ce que vous avez des blagues à froid à nous raconter?
Des blagues à froid?
Oui.
De quoi, par rapport à quoi? Sur
un sujet.
Sur un sujet.
Ce que vous souhaitez.
Blague.
Une histoire, une blague.
Par rapport à notre travail, par exemple?
Oui.
Là, comme ça, pour les cours, je sais pas. Là, pour l'instant, il n'y a rien qui me vient sur le travail corporel.
Ou alors un moment où pendant longtemps ça a été difficile ou raté, en fait. Et du coup, ça vous arrive de vous marier même en scène, ou d'avoir un regard. Est-ce que vous savez que ce moment-là, c'est le moment crucial?
Par exemple, oui, ça nous arrive quand on écrit que d'un seul coup, on va. Nous, notre façon de travailler, c'est, elle repose sur, on va dire, une collecte de matière qu'on se met de côté, de la musique, des références cinématographiques, de théâtre et autres. Et puis quand on veut écrire une histoire, et ben on va travailler sur la base d'un scénario aussi. Et on va se trouver des pistes de travail, par exemple, et qui vont nous donner des mince, j'arrive pas à trouver mes mots, qui vont nous donner une base pour faire de ce qu'on appelle une écriture de plateau. C'est-à-dire que, par exemple, on va partir à partir d'un thème, on va se dire, bon, bah tiens, on veut travailler, je sais pas, l'univers d'un supermarché, bah hop, on va se donner plusieurs thèmes de ce qu'il peut y avoir dans un supermarché, quelqu'un en caisse, quelqu'un qui fait le nettoyage, quelqu'un qui s'occupe des stocks. Donc, du coup, ça va nous passer, ça va nous permettre de travailler sur ça. Et donc, il faut, dans l'écriture de plateau, proposer beaucoup de choses. Donc, ça part sur l'improvisation, ça part sur la proposition, et donc, du coup, ça peut être tout et n'importe quoi, et des fois, ça va être très débile et on peut se faire rire. Et quand on se dit, ok, là, quand on commence à rire plusieurs fois et qu'on a des fous rires sur toutes les fois on le refait, on se dit, ok, là, on sent qu'il y a un truc. On sent qu'il y a un truc qui nous fait rire. Et après, ça va être la confiance qu'on va s'accorder sur, ok, bon, bah, on a confiance en notre blague. Bon, bah, on prend le risque de la garder dans le spectacle. Même si on dit caca pipi, si ça peut être très naze, mais si ça peut être bien amené, ça peut être drôle aussi. Comme ça peut être aussi, non là on sent que ça va, on va trop loin sur cette blague là, ou alors voilà. Tout, là c'est vraiment l'équilibre qu'il faut trouver. Et c'est assez subtil.
Est-ce que des fois aussi, quand vous êtes metteur en scène, c'est plus toi Alexandre ou Adrien qui choisissent monter le spectacle ou qu'une seule personne qui de vous deux qui choisisse ce lien là
Non, on est vraiment, on fait vraiment presque tout à deux. Après pour la mise en scène, après il y a Adrien qui fait toutes les graphismes des vidéos parce qu'on projette de la vidéo sur scène. Donc Adrien, lui par contre, il fait tout ça. C'est lui qui fait toutes les vidéos qu'on projette, c'est lui qui les fait. Voilà, par contre, au niveau décision d'écriture et de mise en scène, on est plutôt tous les deux ensemble.
Mais c'est vrai, c'est ça. Oui, on met en scène ensemble. Donc, du coup, les choix se font à deux. L'un ne va pas imposer à l'autre absolument un truc, à part s'il est convaincu que telle chose, ça va marcher. Bah, c'est la confiance de son partenaire qui va faire que, ok, je te fais confiance, faisons ça. Et par exemple, on peut avoir des doutes quand on est en résidence de création. On se dit, bon, bah là, je suis pas trop sûr de cette scène-là, qu'est-ce que t'en penses? Mais non, si, je t'assure, vas-y, on la garde, cette scène-là, il faut la garder. Donc, du coup, il y a aussi des moments où on est garde-fou de l'un et de l'autre. Et il faut se faire confiance aussi dans ces choix-là. Après, comme dit Alex, moi, c'est vrai que comme je m'occupe des animations qu'on peut projeter sur certains spectacles, c'est vrai que des fois, je peux avoir une vision précise de certains moments parce que je me dis, bah ouais, mais dans la vidéo, on va peut-être jouer, je vais peut-être proposer ça. Et du coup, bah, il va falloir qu'on s'adapte aussi à la vidéo parce que c'est quand même un élément hyper important dans une mise en scène. C'est un troisième acteur. Et donc, du coup, cet élément-là, il faut... On peut pas juste le poser sans prendre en compte la relation entre les comédiens en plateau et cet élément-là qui peut nous écraser. Donc, des fois, je peux avoir des avis sur quand on est en lien avec la vidéo et du coup, bah, on en discute avec Alex, mais sinon, ça reste vraiment sur une co-écriture et ça fonctionne bien, ouais.
Ça veut dire qu'il faut savoir mettre son ego dans sa poche de temps en temps.
Oui, c'est pas facile, mais oui, dans ce métier... J'ai envie de dire presque tout le temps, il faudrait mettre son ego dans la poche, mais c'est pas simple. C'est pas simple parce qu'on fait ce métier aussi, quelque part, parce qu'on a un peu d'ego. Ça veut pas dire du mauvais ego. Hein. Je pense qu'il y a du mauvais ego et du bon ego. C'est bien d'avoir un peu d'ambition, un peu de envie de plaire, c'est bien, mais il faut faire attention à ce que les égos s'entendent. Et c'est pas facile, mais ça, c'est pareil, ça s'apprend avec le temps. Au tout début, il y a eu des moments plus difficiles, et puis on a réussi à force de se connaître, de savoir comment on fonctionne, c'est beaucoup plus facile de fonctionner. Mais des fois, dans ce milieu-là, oui, c'est pas facile, c'est sûr.
C'est pour ça que travailler à deux, ça va.
Ouais.
Parce que déjà, c'est pas facile de s'accorder à deux. Et puis, dès qu'on rajoute un troisième élément à trois, ça devient un peu plus compliqué. Et un travail, par exemple, d'écriture collective pour des compagnies, des collectifs d'acteurs, et bah, on sait que c'est plus complexe parce que bah, si tout le monde est à la mise en scène, à l'écriture, c'est compliqué de contenter tout le monde, tout ça. Donc ça va, déjà à deux, il faut arriver à s'accorder, donc c'est bien. C'est bien.
Et alors, vous disiez aussi tout à l'heure, bon, peu ou prou, clown, un peu, c'est l'art de la loose, et peut-être de sa propre loose, en fait. Donc, du coup, c'est-à-dire que, est-ce que vous jouez avec ça aussi, du coup, parce que vous nous expliquez comme vous arrivez à travailler, à vous accorder à deux, donc c'est-à-dire que vous êtes capable aussi d'autodérision, de vous moquer un peu, de dire, tiens, je sais que sa loose, enfin, son clown, il est comme ça, donc c'est-à-dire que vous jouez aussi avec ces éléments-là ?
Ouais, c'est génial. Enfin, c'est vraiment... Puis jouer avec nous-mêmes, en fait, c'est vraiment, c'est... Le plateau, en fait, donne une convention qui fait que quand le public nous voit au plateau, il sait que c'est un spectacle. Donc, du coup, il sait qu'on est des personnages. Donc, du coup, on peut se permettre beaucoup de choses. On a cette protection-là aussi du clown. Le nez ou le masque ou juste le code du clown fait qu'on est protégé par ça. Et donc, du coup, on peut vraiment être un personnage, mais insupportable et loser. Et justement, ces moments-là de gêne entre deux personnages, c'est hyper intéressant, c'est jouissif.
Et en même temps, c'est tout le truc du clown, c'est que ça vient de nous, cette loose. C'est une partie de notre personnalité qu'on exagère mais ça part d'un truc vrai. C'est-à-dire que nos personnages clownesques dans les spectacles, c'est des grandes parts de nous qu'on met dans ce personnage et après qu'on écrit. Mais y a des choses qui viennent de nous, de maladresse, de bêtises des fois, de rêverie, enfin de... Ça vient de notre personnalité, mais on l'a. Justement, ça nous fait rire. Et on a appris à l'époque à accepter aussi, parce qu'au début, c'est dur ça aussi d'accepter qu'on a la loose en nous. On veut tout contrôler. Et en fait, bah non, il faut accepter qu'on est comme ça. Et ben, ça nous fait marrer aussi. Donc on le garde et puis on l'utilise.
On exagère. Enfin, le clown, c'est exagéré. C'est nous. C'est nous en exagéré. Donc du coup, moi, je sais que j'aime bien quand c'est propre chez moi. Donc forcément, je vais partir de ça. Dans Horizon, il y a deux gars qui vivent dans l'espace. Donc du coup, il y en a un qui fait le ménage. Moi, mon personnage fait le ménage. Donc du coup, dans les impros, bah, je suis parti sur faire le ménage, mais exagérer les choses. Donc du coup, on part sur cette loose-là, cette maniaque du personnage, et on l'exacerbe. Il passe l'aspirateur tout le temps. Il fait le ménage, il lave les vitres du vaisseau, mais de manière exagérée. Donc voilà, ça, c'est des endroits où aussi il faut... Il faut assumer aussi nos personnages, il faut assumer nos travers et puis en jouer en fait, exorciser ça. Puis c'est hyper salvateur de le faire sur scène en fait. C'est intéressant cette piste de travail là. Sans forcément raconter sa vie, surtout pas.
Voilà, donc on rappelle que vous serez au festival d'Avignon. Voilà, donc. Salle Tomasi à la Factory, très précisément, du 4 au 31 juillet, pour présenter le spectacle Play War, donc un spectacle de 2017 dont nous aurons tout loisir de parler après une pause musicale. Donc j'ai essayé de choisir une pause musicale dans le thème de cette pièce. Donc je vous propose d'écouter une magnifique chanson des Rolling Stones, Painted Black. Donc voilà, pour rappel, hein, c'est le générique d'une série qui s'appelle L'Enfer du Devoir en français, une bonne série des années 90. Et pour les gens qui se diront plus cinéphiles, c'est également le générique de fin de Full Metal Jacket, voilà, que vous avez pu revoir à la nuit des studios récemment. Donc nous écoutons ceci dans la Méridienne sur Radio Campus Tours et on se retrouve tout de suite après.
Maybe then I'll fade away and not have to face. green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you.
De Rolling Stones sur Radio Campus Tour 99.5 FM. Nous sommes toujours dans la Méridienne. Et alors, la compagnie discrète s'apprête à partir au Festival d'Avignon pour présenter Play War, donc spectacle de 2017. Alors juste, avant de parler plus en détail de ce spectacle, qu'est-ce qui préside au choix d'un spectacle? Pourquoi celui-là et pas un autre? Parce qu'on pourrait dire, ah, c'est un spectacle de 2017, vous avez des créations plus récentes. Alors pourquoi celui-là?
On prend celui-là parce que c'est le plus adapté aux conditions du Festival d'Avignon. Festival d'Avignon, il faut que ça aille vite, il faut que ce soit léger. On n'a que 10 minutes à peu près pour changer le plateau, la scène, du spectacle d'avant et du spectacle d'après. Donc, on joue, on a 10 minutes pour débarrasser tout notre bazar, pour que les autres puissent mettre leur bazar, etc. etc. Donc ça va très très vite. Et c'est très sport comme festival. Du coup, on a pris un spectacle qu'on connaît très très bien, on a vraiment dans les pattes, et qui est plus léger que les suivants au niveau technique. C'est beaucoup pour ça qu'on a choisi ce spectacle-là pour Avignon.
Ouais.
Et puis parce que ça représente vraiment, c'est un spectacle qui représente vraiment bien les valeurs de la compagnie. Le côté mime, c'est un bon porte-étendard de la compagnie. Voilà.
Et donc une musique qui faisait allusion à la guerre du Vietnam, parce que oui, quand même on peut le dire, sans dévoiler trop du spectacle, parce qu'on parlait sur antenne de attention à ne pas spoiler ce qui se passe avec trop de bandes annonces, mais est-ce que vous voulez nous en dire plus sur ce spectacle?
Bah, en plus on en a un petit peu parlé tout à l'heure, parce qu'en fait ce spectacle il est né il y a un peu plus de 10 ans. En fait, c'est notre rencontre est née avec... Enfin, artistiquement dans le mime, elle est née avec ce spectacle-là. Quand on a présenté une scène de 20 minutes en clown au conservatoire, c'était deux soldats américains dans la jungle du Vietnam. Et donc, en fait, on est parti sur cette base-là. En fait, à l'époque, on avait créé ça, ces 20 minutes. Et puis, après avoir créé la compagnie, on s'est dit, on va reprendre cette base de ces deux clowns dans la jungle pour en faire une histoire. Et donc, cette histoire, c'est deux soldats américains qui sont envoyés en mission en pleine jungle du Vietnam pour libérer le président des États-Unis. Donc ça, c'est leur but. Mais il y a tout un tas de périples, tout un tas d'étapes à passer pour atteindre ce but-là. Et du coup, ils vont passer par plein de mésaventures dans la jungle. Ils vont devoir affronter tous les dangers de la jungle pour arriver au but de leur mission. Donc la jungle, c'est chouette. Il y a de la verdure, des rivières, des animaux, et puis des ennemis sur place aussi, voilà, les ennemis des Américains à l'époque. Donc voilà, il va falloir qu'ils affrontent les soldats adverses et comment ils vont s'en sortir. Sachant que ce sont deux personnages qui sont un peu incapables, quoi. Enfin, ils sont incapables chacun à leur manière, donc c'est ça, au bout de 5 minutes, on comprend que c'est voué à l'échec, très vite. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se rendre compte que, ok, ça va pas se passer comme prévu. Donc voilà. Et du coup, bah, y a deux personnages, Serge, un soldat, voilà qui a son tempérament un peu oisif, et puis il y a Captain, un vaillant soldat un peu très volontaire, son supérieur, mais bon, voilà, qui a aussi ses petits défauts, qui peut vite être pétochard quand le danger arrive. Donc c'est un peu, voilà, l'équilibre qu'il faut trouver entre les deux. Et voilà. J'essaie d'en garder sous le coude.
Donc c'est un spectacle qui est dit à partir de 7 ans.
Oui.
Comment on fait en fait pour que cette écriture elle soit à partir de 7 ans, mais donc aussi bien pour des gens qui ont 7 ans, qui en ont 30, qui en ont 70, comment on arrive à faire ça?
C'est ce qui s'appelle le tout public, le spectacle tout public. C'est-à-dire que on essaye que notre spectacle soit le plus universel possible, c'est-à-dire que ça fasse rire tout le monde. Un peu comme les films, il y a des films qui sont voués à faire rire toute la famille. C'est un peu pareil. Donc on essaye que ce soit des situations comiques qui parlent à tout le monde, qui parlent aussi bien aux enfants qu'aux parents. Là, je pense au film de Charlie Chaplin, par exemple. Le film de Charlie Chaplin, c'est pour tout le monde. Les parents et les enfants vont rigoler sur la même situation de... Je sais pas, il est tombé, il a fait je sais pas quoi. Ça va faire rire tout le monde. Et en même temps, dans le film ou dans notre spectacle, c'est pareil, il y a des références un peu plus ciblées adultes et un peu plus ciblées enfants. Mais globalement, c'est tout le monde rigole. En tout cas, c'est ce qu'on recherche, ouais.
Et donc ça peut être des spectacles qui sont programmés, par exemple, pour des scolaires ou des choses comme ça. Est-ce que vous intervenez parfois dans des établissements avec de tels spectacles?
Oui, on a fait beaucoup de scolaires avec Playwar, avec les autres spectacles aussi. Oui, ça fait partie d'une grande part de notre public, les scolaires, les enfants.
Oui, on va faire des représentations qui vont être le soir dans une salle de spectacle, et puis on peut aussi faire les fameuses représentations scolaires en début d'après-midi. Et là, du coup, le rapport avec le public n'est pas le même aussi. C'est que comment le public reçoit quand c'est un public scolaire qui vient, c'est pas la même réception des blagues et puis de l'histoire, parce qu'ils viennent aussi dans d'autres conditions, ils viennent avec les copains, donc au bout de très peu, enfin très très vite, ils se mettent à rigoler et, parce qu'ils ont envie de rire, donc voilà, c'est assez chouette. Et après, bah, du coup, il y a tout ce travail de débrief du spectacle aussi après qu'ils font avec leur prof sur... parce que ça parle de deux gars dans le Vietnam, au Vietnam, mais ça parle aussi de la guerre, du coup. Comment nous, on a vu la guerre, comment on voit la guerre. C'était aussi ça, une des pistes de travail, c'était comment on voit la guerre, nous, à notre âge. On voulait jouer à la guerre. On voulait jouer à la guerre, vraiment, comme un enfant, comme des enfants joueraient à la guerre dans le jardin, mais avec nos références, donc c'est-à-dire l'actualité, les films qu'on a pu voir, les films américains, tout ça. Et ça nous a vraiment inspiré pour écrire cette histoire-là. Donc du coup, nous, on a voulu en parler. Et avec ce public-là, c'est comment on peut parler d'un sujet aussi commun, malheureusement, la guerre, et en rire, et comment eux, après, ils vont débriefer en classe avec les profs. Donc il y a aussi tout ce travail-là de défrichage de l'histoire, de ce qu'ils ont pu analyser, parce qu'il y a des moments drôles et puis il y a des moments un peu plus sombres aussi, qui la guerre les rattrape, ces deux personnages là donc comment ils vont digérer cette histoire là et puis après on peut en parler avec eux. Ça arrive d'avoir des bords plateaux après le spectacle, on discute de bon, bah voilà, vous avez vu le spectacle, vous avez vu notre vision de la guerre avec le média du théâtre, du mime. Et donc on en discute, et puis après ça nous arrive aussi de faire des ateliers avec eux, ça peut être avant ou après, voilà, pour les initier au mime, donc à travers des exercices, pendant une heure et demie on fait des exercices de mime, donc on est assez habitué à transmettre notre langage artistique aux scolaires, ouais.
Vous êtes un support pédagogique?
Oui, je sais pas ce que ça veut dire exactement.
En fait, c'est un outil, j'allais dire, à usage de professeur ou d'enseignant. Pour travailler de diverses compétences. Donc là, ça peut être travailler sur c'est quoi la guerre, peut-être une approche historique, voilà, la guerre du Vietnam, c'était telle année, tout ça. Du coup, de dire, j'imagine, en faisant un atelier avec vous, bah, on travaille peut-être comment on est dans un groupe, comment on affronte, entre guillemets, le regard des autres.
Oui, oui.
Voilà, donc en fait, c'est plein de compétences, peut-être pas forcément scolaires au premier plan, oui. Mais qui sont utiles, voire indispensables.
Oui. Exactement. En fait, oui, c'est vrai que si on va jouer ce spectacle-là, après, nous, on va pas parler spécialement de la guerre avec les élèves quand on va faire l'atelier. Mais le mime, ce qu'on va transmettre avec notre approche du mime, c'est, et tout ce qui en découle, ça, c'est hyper intéressant. C'est justement mettre à niveau, au même niveau tout le monde. Par exemple, dans un atelier, tout le monde est en cercle, et un élève qui est peut-être hyper actif sera au même niveau qu'un élève qui sera timide. Et avec ce langage... non-verbal, langage corporel, certains qui sont peut-être plus inhibés vont pouvoir aussi s'exprimer et puis montrer une autre facette d'eux, comme d'autres qui ont besoin aussi de canaliser leur énergie vont trouver une autre manière aussi de s'exprimer, et c'est ça qui est chouette dans la transmission. C'est plus dans cette direction-là que les profs vont être hyper intéressés que les sujets qu'on va aborder, par exemple. Et c'est vrai que le mime, voilà, ça reste un langage qui est facilement accessible pour les enfants. Et on gagne beaucoup de temps là-dedans.
Voilà, donc ce spectacle Play War à retrouver au Festival d'Avignon. Alors justement, quand même, aller à Avignon, on suppose que ça coûte des sous quand même. Une compagnie, c'est un investissement en temps, en budget, en énergie physique et mentale. Donc pourquoi c'est important pour vous d'être présent sur Avignon?
C'est important parce que, en fait, Festival Avignon, c'est un peu comme une vitrine où on va pouvoir montrer notre travail à plein de gens qui ne sont pas de la région, par exemple, à plein de programmateurs de la France ou même de l'étranger. C'est une occasion de montrer, regardez ce qu'on fait, pour qu'ils puissent être intéressés et éventuellement nous acheter dans leur région ou là où ils sont. Parce que c'est assez difficile de sortir de la région en tant que compagnie. Donc c'est une espèce de tremplin comme ça, c'est à ça que ça sert en tout cas.
Et vous êtes simplement invité là-bas ou c'est vous qui avez envie d'avoir se déplacer?
C'est un désir qu'on avait depuis plusieurs années, on nous avait encouragé à le faire avec aussi le travail de notre compagnie, on nous disait que ça pourrait très bien correspondre au Festival d'Avignon. Après... comme on était en train d'en parler, c'est quand même un enjeu financier assez important parce qu'on voulait pas y aller. On l'a pas fait jusqu'à présent parce qu'on voulait pas y aller dans de mauvaises conditions. C'est des conditions qui sont quand même un peu sportives. Oui, il y a la rigueur de jouer quand même autour de 21 fois d'affilée. Il y a 3 jours de relâche, mais en un mois, voilà, il y a les représentations, il y a le fait de tracter, il y a le fait d'afficher, le fait de ramener le public, le fait de travailler les relations avec les professionnels. Il y a beaucoup de choses qui en dépendent. Et ces choses-là, ça coûte de l'argent parce que les équipes qui nous accompagnent, il faut qu'elles soient payées. L'artistique, il y a les artistes comédiens, interprètes, comédiennes, tout ça au plateau, mais il y a aussi la technique. Il y a aussi un élément majeur, donc les personnes qui viennent à la technique sont payées et on veut les payer décemment. Toute la dimension administrative, des gens qui font un travail de l'ombre aussi, qui est hyper important dans une vie de compagnie, et ces personnes-là aussi doivent être payées. Donc ça repose sur toute une économie aussi, c'est pas simplement la dimension artistique. Et donc ça repose sur les billetteries aussi. La billetterie, c'est ramener un maximum de public pour essayer de faire en sorte que cette opération, on va dire, Avignon soit pérenne. Il y a des subventions qui peuvent aider, il y en a qui demandent du mécénat privé, ça peut passer par plein de choses. Donc du coup, jusqu'à présent, nous, on estimait que c'était trop tôt. Donc on a voulu faire ça l'année dernière, on avait commencé, il y a eu un accident, ce qui fait qu'on a arrêté l'aventure Avignon assez vite, au bout d'une semaine, et là, cette année, on y retourne pour reprendre un peu notre revanche. Et puis voilà, c'est vrai que c'est assez prenant. C'est assez prenant et c'est vraiment une course d'endurance. Vraiment, il faut se préserver au maximum.
Ah, donc peut-être si des auditeurs ne sont pas encore allés à Avignon pendant le festival, donc peut-être on peut dire faut imaginer des rues recouvertes d'affiches en fait, de plein de spectacles, parce qu'il y en a des dizaines à aller voir, et vraiment des dizaines de spectacles, et de dire bah
alors il y en a alors, je crois que l'année dernière, alors je sais plus, mais je crois qu'on était à 1600 et je crois que ça a encore augmenté, donc 1600 spectacles.
Donc c'est-à-dire qu'il faut faire la différence là-dedans. Voilà. Il faut que les gens ils aillent voir ton spectacle. Voilà. Et donc c'est-à-dire qu'il y a aussi peut-être un autre effort, c'est de dire, bah, comme vous le disiez, il faut attraper les gens, il faut qu'ils viennent. Donc là, on peut penser aussi une pensée émue pour tous les gens qui tractent, qui essaient de donner leur affichette aux chalands et qui se font envoyer bouler parce que les gens en ont ras-le-bol. Mais stop, c'est bon.
Et que 2 mètres plus loin, il y a une autre équipe qui fait la même chose.
Voilà.
Et oui, la concurrence est dure. Bah oui, c'est on y va un peu, on se prépare à, comme on disait, à la guerre, quoi. On y va, quoi. Et oui, c'est très dur, faut tracter, faut... On est fatigué parce qu'on joue, parce qu'on affiche, parce que c'est très stressant. Et en plus, il faut garder le sourire et que les gens viennent et essayer de les convaincre de venir, que notre spectacle, il est intéressant. Et effectivement, les gens en ont marre, ils ont 20 prospectus dans la main, ils savent déjà pas ce qu'ils vont faire. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont gentils, hein, qui écoutent quand même, mais il y en a qui n'ont rien à faire. Il y a aussi beaucoup d'habitants d'Avignon qui n'ont rien à faire du festival. Ça les intéresse pas, ils vivent juste là. Et c'est un cauchemar pour eux. Et du coup, on se paye beaucoup de vent aussi, comme ça. Mais c'est difficile, mais on va y arriver.
Bah oui, en fait, pour essayer d'attirer le public, bah, y a l'affichage, mais l'affichage... C'est la jungle, voilà. Et puis on essaie de respecter certains codes, de pas afficher nos affiches sur les affiches des autres. Mais faut bien se trouver une place. Alors à côté, il y a un petit peu de place. Bah, je vais essayer d'afficher 2 affiches à ce petit vide là. Donc du coup, il y a ça aussi qui est compliqué. Et le tractage, c'est chiant ce mot. le fait de tracter, voilà. Et bah nous, on va être aidé par 6 personnes qui vont nous aider à tracter. Et puis nous, à côté, on arrive en costume. Et puis, en silence, on se balade dans les rues et on fait les soldats. On fait des saluts militaires, on se cache derrière des buissons, on se cache de la pire manière qui puisse être pour être bien repéré. Et puis, l'idée, c'est de montrer, d'attirer l'œil sans agresser aussi le public. Parce que c'est vrai que tracter, c'est hyper délicat. Et donc, du coup, c'est comment aussi trouver une manière de donner envie. Donc du coup, faut penser aux familles aussi. La manière de parler du spectacle, bah faut que ça attire autant les plus jeunes que les plus adultes. Donc c'est quand même, on n'y va pas non plus comme ça à l'arrache à Avignon. Faut
traiter en donnant une phrase humoristique, par exemple.
Oui, voilà. Mais des mots clés. On sait que par exemple des références à Rambo, voilà, dans le spectacle, ça plaît à un père de famille, et puis on va dire Tex Avery aussi, pour les plus âgés aussi, qui connaissent que ces dessins animés-là, et puis on va parler de Oggy et les cafards ou les lapins crétins, parce que notre façon de parler, nos personnages peuvent avoir un langage, un faux langage, inspiré de leur langage. Donc tous ces mots-clés-là peuvent faire mouche pour les familles, par exemple. C'est assez important de penser à tout ça.
Voilà, donc on voit de fins stratèges quand même qui préparent Avignon. Et puis bon, comme disait quelqu'un, la vie c'est avant tout une question de rencontre. Hein. Avignon c'est ça aussi. Donc là on mesure aussi le travail de personnes qui peuvent être chargées de production ou de communication. Parce que ces personnes-là, l'idée c'est aussi d'être en réseau, j'imagine avec la presse locale ou la presse spectacle, et avec peut-être des programmateurs. Donc c'est-à-dire que c'est eux qui vont aussi aller essayer de... C'est-à-dire de faire la danse du ventre, c'est un peu vulgaire, mais enfin d'aller attirer ces personnes-là pour qu'elles viennent, pour que les professionnels viennent. Donc on voit vraiment la grosse machinerie que c'est.
Ouais. C'est vrai que la compagnie, là, on a quand même pas mal de personnes qui seront sur cette aventure-là. On est un peu plus d'une quinzaine au total, parce qu'on va avoir quelqu'un à la production, justement, qui va pendant toute l'année, la saison culturelle, aura préparé le terrain avec certains pros. Il y a la personne à la communication qui justement s'occupe d'aller rencontrer la presse pour qu'après on les rencontre nous aussi. La presse peut attirer public, donc il y a toute cette relation qui est importante. Et puis on travaille avec un bureau de production qui nous aide aussi à la diffusion du spectacle. Donc ces personnes-là ont déjà aussi tout un carnet de contacts qu'elles invitent au spectacle. Donc après il y a tout ce travail, après avoir vu le spectacle, comment on débrief. Enfin, c'est vrai que c'est... Ouais, c'est une. Au-delà de juste jouer à Avignon, il y a beaucoup de choses à penser. Et ça peut être grisant, comme ça peut être. Ouais, c'est très stressant aussi. Parce qu'il ne faut pas se foirer, quoi.
Et puis, bon, on espère tout de même, j'imagine, un retour sur investissement. C'est-à-dire qu'il va y avoir des dates en 2023, ouais. En 2024. Voilà, donc parce que ce qu'on voit sur votre site, il y a déjà des dates qui sont calées jusqu'en 2023. Donc est-ce que ça, c'est un effet Avignon 2021 ? Enfin, comment ça se passe en fait, ces dates voilà, en fait, ça veut dire que là, en allant à Avignon maintenant, vous peut-être vous préparez 2023 et 2024 ?
Oui, c'est ça. On a eu quelques dates d'Avignon l'année dernière, mais comme on n'est pas resté longtemps, on n'en a pas non plus beaucoup. Mais oui, l'idée, c'est ça, c'est qu'Avignon va nous apporter des dates. Les saisons d'après, quoi. Pas, peut-être pas celle juste après parce que c'est un peu court, mais à partir oui, de 2023, 2024, c'est ça l'idée, ouais.
Ça dépend des façons de programmer aussi. Il y a des lieux qui programment à l'année civile, il y en a qui programment à saison culturelle, donc ça dépend aussi vraiment des économies, vraiment des économies de travail de certains lieux de programmation. On peut être programmé par. Ça, une scène nationale comme on peut être programmé par une commune, une plus petite commune, plus modeste, et donc du coup la façon de programmer n'est pas la même. Donc ça peut être très vite comme ça peut être dans plus longtemps, quoi. C'est une manière aussi de faire rayonner ce qu'on appelle rayonner, ouais, enfin de faire rayonner la compagnie au-delà du spectacle. C'est aussi regarder ce qu'on fait, et puis on va leur parler du prochain spectacle aussi. Donc du coup voilà, on travaille sur un prochain spectacle. Est-ce que vous voulez nous aider à soutenir ce spectacle là c'est une manière aussi de montrer. On se projette sur la diffusion, mais aussi sur la production. Donc c'est aussi une manière de rencontrer d'autres pros, parce que les programmateurs peuvent aussi soutenir la création. Donc en accueillant dans leurs locaux la compagnie pendant une semaine pour travailler sur le prochain spectacle. Ils peuvent faire ce qu'on appelle des coproductions, donc c'est-à-dire mettre de l'argent pour financer ce spectacle-là. Il y a aussi cet enjeu-là de Avignon aussi. C'est aussi de trouver de nouveaux partenaires, créer des nouvelles collaborations. Voilà,
donc on mesure bien les enjeux pour une compagnie comme la vôtre d'aller à Avignon. Donc c'est pas juste se faire plaisir et aller en vacances dans le sud, pas que en tout cas. Et voilà, d'ailleurs je ne résiste pas à signaler à nos auditeurs qu'il y a une page YouTube de la compagnie Discrète. Et justement en fait d'Avignon, il y a une session d'enregistrement qu'on trouve sur sur ce compte YouTube. Alors là, pour le coup, ce n'est pas que du mime, il y a de la parole aussi. Ouais. Donc j'ai fait le test, ça passe très bien en radio. Donc voilà, je propose à nos auditeurs d'écouter, à défaut de le voir, cet entraînement spécial à Avignon. Donc je rappelle qu'on retrouve sur votre page YouTube de la compagnie Discrète. On se retrouve après cette écoute.
Ok, c'est parti. Allez, 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 tu perds pas de temps, t'y vas, t'y vas, t'y vas. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Ouais, ouais, ouais. Allez, sors la fiche. Allez, dépêche-toi là, il y en a plein d'autres à faire là.
Pardon.
Allez, 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 allez. Non, 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 tu me refais ce nœud là, c'est n'importe quoi là.
C'est pas grave, c'est du mime.
Mais je m'en fous, le mime c'est précis, tu refais ce nœud.
Pardon, je suis désolé.
C'est comme si c'était pour de vrai là, allez. Et dépêche-toi là, t'as pas le temps là, allez, passe à la suite là. Allez, allez, allez.
Pardon, je suis désolé.
Arrête de t'excuser.
Ouais, mais je sens quand même que t'es un peu en tension. Et
mais
du coup...
ne me parle pas, vas-y, là. Allez. Dépêche-toi.
Ouais, mais faut pas qu'elle soit trop...
Mais on s'en fout, affiche.
Ah,
affiche.
Oh, j'ai cassé la branche.
Du con.
Désolé.
Allez.
Bon, on la refait, du coup.
Mais non, on la refait pas, avance, avance, là.
Oui, mais elle est pas accrochée.
Mais il y aura pas d'arbre, Avignon, dépêche-toi.
Je suis désolé. Hein.
Allez, 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 allez. Mais pas par là. Lui, là. La ligne des trois arbres, là, lui! Oh là là!
Je suis désolé, pardon.
Dépêche-toi!
Mais je la mets où là? Parce que.
Mais fais ce.
Là, ça marche pas.
Mais de toute façon, c'est foutu là. Fini, hein. Fini, mais c'est foutu là. T'es nul. Pourri. Bon, reviens. Allez, reviens.
Elle est dans les orties.
Reviens, il n'y aura pas d'ortie à Avignon. Il n'y aura pas d'ortie à Avignon! Reviens, c'est fini. T'as perdu, reviens. Allez. C'est nul. C'est nul là, ce que t'as fait. Tu t'en rends compte? Regarde ton temps, c'est mauvais, c'est mauvais. Comment tu vas faire, Avignon? Comment tu vas faire quand il y aura 50 Pékins comme toi qui te bousculeront pour afficher à ta place? Tu t'excuseras d'avoir cassé la branche? Putain. En plus, ici, il fait frais. Avignon, il fait chaud. Non, mais pleure pas. Bon, on va recommencer, bien. Déjà, le départ. Nul, le départ. Nul. Ah!
En tout cas, on vous a vu rigoler en entendant cette vidéo. Qu'est-ce que...
Oui, ça fait bizarre de l'entendre juste en son, quoi. Et effectivement, ça passe bien. Il y a un petit sketch audio, c'est marrant.
Ouais.
Ça m'a fait rire.
Mais ouais, on a pris beaucoup de plaisir à faire ces vidéos-là parce que c'était évident, quoi. Enfin, il y avait des trucs de... Enfin, ça a été chouette. Et puis, on était déjà en condition. Il commençait à faire chaud à l'époque. Les moustiques arrivaient, enfin... C'est vrai.
C'est vrai.
Puis c'est marrant de jouer ces personnages-là, de nous jouer nous-mêmes, stressés, de se préparer à Avignon. C'est assez rigolo comme exercice.
Voilà, donc Avignon, compagnie discrète, on le rappelle une ultime fois. Voilà, rendez-vous salle Tomasi à La Factory du 4 au 31 juillet. J'ai l'impression d'être, vous savez, la voiture là, pour le cirque.
Ah oui, c'est ça.
Donc comment ça se passe si d'aventure des gens s'apprêtent à partir de Tours pour Avignon et souhaitent réserver un spectacle? Il y a une billetterie, je suis Baudor.
Déjà, respect, de venir jusqu'à Avignon de Tours. Sur le site de La Factory, c'est le théâtre qui nous accueille. C'est un théâtre qui gère plusieurs salles, dont la salle Tomasi dans laquelle on va jouer à 17h10, eh bien, les gens peuvent réserver sur Internet. Il y a les billetteries en ligne aussi. Il y a le numéro de téléphone qui doit être indiqué. Je ne l'ai pas là en tête, mais voilà, sur le site de La Factory. Puis nous, bientôt, là, on va commencer à mettre les infos sur le site Internet. Les gens pourront très vite trouver ces infos-là pour réserver. Voilà.
Eh bien, merci à vous, Adrien Fournier et Alexandre Fink, compagnie discrète. Voilà, cette
merci.
Émission va déjà toucher à sa fin. Et je vous propose de terminer cette émission par une chronique de la CPAM. Et ben oui, la CPAM te parle sur les ondes de Radio Campus Tours. Et donc, peut-être une question que vous êtes tous posée. J'ai perdu ma carte vitale, mais au fait, à quoi sert-elle? Et bien voilà, je vous propose d'écouter cette chronique de Karen Delésir qui va répondre à toutes vos graves interrogations. Il reste à vous souhaiter à tous et à toutes la meilleure journée possible à l'écoute de notre radio. Bonjour Karen Delésir.
Bonjour.
Alors, une nouvelle chronique pour la Caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire. Et aujourd'hui, nous allons parler de la carte vitale.
Oui, on va d'abord s'interroger de qu'est-ce que la carte vitale? Eh bien, c'est une carte personnelle, strictement confidentielle, sécurisée et gratuite. On ne se partage pas une carte vitale, ça nous est propre. À quoi elle sert? Eh bien, à nous identifier auprès de l'assurance maladie, à rembourser nos frais de santé, médecins, entre autres, à ne pas avancer le paiement de vos frais de santé, notamment en pharmacie. Grâce à votre carte vitale, à quoi le médecin a-t-il accès? Eh bien, grâce à votre carte vitale, il a accès à votre identité, donc il sait votre nom, votre prénom, le numéro de sécurité sociale, il sait aussi à quel régime de l'assurance maladie vous êtes rattaché. Vous, en tant qu'étudiant, bah, dorénavant, c'est le régime général de l'assurance maladie. Et aussi de la caisse primaire d'assurance maladie dont vous dépendez. Et on dépend de la caisse primaire du lieu où on habite. Tout ça pour après faciliter les remboursements. Petit plus à savoir, c'est que la carte vitale est totalement gratuite par l'assurance maladie. Elle est délivrée gratuitement. Si un jour vous recevez un SMS ou un mail qui vous demande de l'argent pour délivrer une carte vitale ou pour avoir une carte vitale dite 2, c'est pas nous. Il s'agit d'une escroquerie pour récupérer des données. Donc surtout, n'y répondez pas. Comment on utilise sa carte vitale? Donc il est très important de présenter systématiquement votre carte vitale à tout professionnel de santé. Concrètement, en fait, il l'insère dans un lecteur qu'il a et ça permet de transmettre une feuille de soins, ce qu'on dit électronique, donc de manière dématérialisée, directement à la caisse primaire d'assurance maladie, ce qui permet d'être remboursé beaucoup plus rapidement. Si vous avez oublié votre carte vitale lors de votre rendez-vous, le professionnel de santé ne peut pas faire ça et doit faire une feuille de soins papier que ensuite vous devez compléter et envoyer à la caisse primaire pour être remboursé. Et cet envoi ne peut être fait que en le déposant dans une boîte aux lettres ou en l'envoyant par courrier pour le moment. Ça va peut-être évoluer, mais pour le moment c'est comme ça. Donc autant ne pas oublier sa carte vitale et de toujours, quoi qu'il en soit, avoir sa carte vitale sur soi quand on se déplace. Parce qu'on peut avoir un accident, n'importe quoi, et au moins si on est pris en charge, on sait, on a notre carte vitale sur nous et on sait qu'on a des droits. Donc avec la carte vitale, vos soins sont remboursés environ sur un délai d'une semaine. Le montant remboursé est versé directement sur le compte bancaire que vous nous aurez donné. C'est pour ça qu'il est important qu'il soit à jour et que vous nous donniez toujours le bon RIB que vous pouvez modifier, pour rappel, là également, sur le compte Amélie. La différence entre votre paiement et le remboursement pris en charge par votre caisse primaire d'assurance maladie pourra éventuellement être pris en charge par votre mutuelle. Si vous avez déclaré votre mutuelle à votre caisse primaire d'assurance maladie et si la télétransmission est bien activée, ce deuxième remboursement par la partie mutuelle se fera de manière automatique, vous n'aurez rien à faire. Donc, très souvent, quand vous prenez une mutuelle, la mutuelle vous demande une attestation de droit de l'assurance maladie, c'est-à-dire que ça atteste que vous avez bien des droits à l'assurance maladie, et cette attestation de droit, vous pouvez la télécharger sur votre compte Amélie, aussi bien sur le web que sur l'appli mobile, d'où l'importance d'avoir un compte Amélie. Dans certains cas, la carte vitale peut aussi vous permettre de ne pas avancer certains frais, c'est ce qu'on appelle, dans notre jargon, le tiers payant. Et c'est le cas, par exemple, pour les médicaments qui sont délivrés en pharmacie. Souvent, on ne paye pas, ou pas tout, parce que certains médicaments ne sont pas pris en charge. Mais voilà, le pharmacien se fait directement payer par la caisse primaire d'assurance maladie. La carte vitale ne contient aucune information médicale. Et surtout, ce n'est pas non plus une carte de paiement. Donc, comment on met à jour sa carte vitale? Il faut penser à mettre à jour sa carte vitale au moins une fois par an à la date de votre choix. C'est-à-dire vous l'avez mis à jour aujourd'hui le 9 mai 2022. S'il n'y a eu aucun changement, il faudra la remettre à jour le 9 mai 2023. Bon, très souvent, les pharmacies le voient et vous proposent de le mettre à jour. Il faut le mettre à jour quand vous déménagez, puisque vous ne dépendez plus de la même caisse primaire d'assurance maladie si vous changez de département, bien sûr. Si vous avez des nouveaux droits, notamment des droits à ce qu'on appelle la complémentaire santé solidaire, qui permet d'avoir une mutuelle soit gratuite, soit avec une participation forfaitaire en fonction de votre situation. En cas aussi de nouvelles situations professionnelles, quand vous devenez par exemple apprenti ou que vous avez un contrat de service civique. La mise à jour se fait dans les pharmacies et dans les bornes, dans les points d'accueil d'assurance maladie. C'est très simple à faire et ça prend une minute et à peine. On peut perdre sa carte vitale, et là c'est un peu embêtant, mais c'est pas grave parce qu'on peut la déclarer comme perdue ou comme volée ou même qu'elle dysfonctionne parce qu'elle a passé par la case lave-linge et a souffert. On peut faire ça sur son compte Amélie, aussi bien sur le web ou sur l'appli mobile. En fait, on va dans « Mes démarches », effectuer une démarche et il y a « Déclarer la perte vol de ma carte vitale ». Et en 3 clics, c'est fait. Et par contre, une fois que vous avez cliqué sur le bouton « Valider », vous la retrouvez 2 minutes après dans votre poche, c'est trop tard. Il ne faut plus l'utiliser. Et il faut en commander une nouvelle tout de suite après. Pour la commande, c'est vrai qu'on privilégie l'appli mobile. Pourquoi ? Parce qu'il faut une photo d'identité. Et sur le web, quand on n'a pas de scanner ou quand on ne sait pas utiliser les outils qui permettent de bien redimensionner les photos, c'est un peu compliqué. Que sur l'appli mobile, quand je vais dans carte vitale, je commande en ligne ma carte vitale. En fait, vous vous prenez tout simplement en selfie. Par contre, sous un fond clair, hein, pas sur la plage ou avec des arbres derrière, on enlève le masque si on a le masque sur le visage. Rien par contre sur la tête. On a le droit d'un peu sourire, contrairement à la photo d'identité. Et en 15 jours, 3 semaines maximum, vous recevez la carte vitale à la maison. Grosso modo, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus rapide que le formulaire papier où il faut coller sa photo dessus. On va vous demander également une photo de votre pièce d'identité, donc soit carte d'identité, soit permis de conduire de moins de 10 ans, soit passeport de moins de 10 ans. Avant de valider la commande de votre carte vitale, vérifiez bien que l'adresse postale qu'il y a sur votre compte à mail est la bonne. Parce que la carte vitale est envoyée bien sûr à votre domicile, et si ce n'est pas la bonne adresse postale, bah, malheureusement elle va revenir chez nous et vous serez toujours sans carte vitale. Dans l'attente de recevoir votre carte vitale, et par exemple vous avez besoin d'aller chez le médecin, pour justifier que vous avez bien des droits à l'assurance maladie, eh ben, il faut télécharger une attestation de droit qui est là aussi disponible sur votre compte Amélie. Bien sûr, comme vous n'aurez pas votre carte vitale, il sera obligé de faire une feuille de soins papier, mais au moins, il verra que vous avez des droits à l'assurance maladie le temps de recevoir votre carte vitale. Quoi qu'il en soit, sur le compte Amélie, ben, vous pouvez suivre l'état d'avancement de votre commande de carte vitale pour voir si elle est en cours d'impression, en cours de livraison, ou si elle est livrée. Et là, si vous ne l'avez pas, c'est que, éventuellement, ce n'est pas la bonne adresse postale qu'on a.
Merci à vous, Karen Delésir, caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire. Donc, rendez-vous sur amélie.fr et ses chroniques sont à retrouver sur notre site radiocampustour.com.